Alors ce matin, nous aborderons déjà le thème de la Sainte Cène. Et pour préparer la prédication de Sylvain, je vous lirai deux ou trois textes bibliques. Le premier se trouve dans Matthieu 26, les versets 1 à 5 et 17 à 21. Quand Jésus eut achevé toutes ses instructions, il dit à ses disciples, « Vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans 2 jours. Le Fils de l'homme va être livré pour être cloué sur une croix. » Alors les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif se réunirent dans le palais de Caïphe, le grand prêtre. Ils prirent ensemble la décision d'arrêter Jésus en cachette et de le mettre à mort. Ils disaient, « Nous ne devons pas l'arrêter pendant la fête, sinon le peuple va se soulever. » Ensuite, dans la chronologie du texte, on a l'histoire de la femme qui met un parfum sur Jésus, sur la tête de Jésus. Et un peu plus loin, Jésus prend rendez-vous avec les chefs des prêtres pour livrer Jésus. Ils se mettent d'accord sur une somme d'argent et ça va s'organiser juste après. La suite du texte, c'est au verset 17. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent demander à Jésus, « Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque ?» Jésus dit alors, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître déclare, « Mon heure est arrivée, c'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparent le repas de la Pâque. Quand le soir fut venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité, l'un de vous me trahira. » Voilà pour les textes du Nouveau Testament. L'autre texte se trouve dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome. Deutéronome 16, les versets 1 à 3, 8, 16 à 17. Au cours du mois d'Abib, n'oubliez pas de célébrer la fête de la Pâque en l'honneur du Seigneur, votre Dieu. En effet, c'est durant une nuit de ce mois que le Seigneur vous a fait sortir d'Égypte. Les animaux que vous offrirez au Seigneur lors de la Pâque seront pris dans les troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs. La cérémonie se déroulera dans le lieu que le Seigneur aura choisi pour manifester sa présence. Au repas de la fête, vous ne mangerez pas de pain levé pendant 7 jours, vous mangerez du pain sans levain, qui vous rappellera avec quelle hâte vous avez dû quitter l'Égypte. En consommant ce pain de misère, vous vous souviendrez à jamais du jour où vous êtes sorti d'Égypte. Durant 7 jours, on ne devra trouver aucune trace de levain chez vous, dans tout votre pays. Quant à la viande de l'animal sacrifiée le soir du premier jour, elle ne devra pas être gardée jusqu'au lendemain matin. Vous ne serez pas autorisé à célébrer la Pâque dans n'importe laquelle des villes où le Seigneur, votre Dieu, vous aura permis d'habiter. Vous le ferez uniquement dans celle qu'il aura choisie pour manifester sa présence. Verset 8. Pendant 6 jours, vous mangerez du pain sans levain. Le 7e jour, vous aurez une assemblée solennelle en l'honneur du Seigneur, votre Dieu, et vous ne ferez aucun travail. Chaque année, tous les hommes de votre peuple iront donc se présenter 3 fois devant le Seigneur, votre Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, lors des fêtes des pains sans levain, de la Pentecôte et des huttes. Ils n'iront pas au sanctuaire du Seigneur les mains vides, mais chacun apportera une offrande en fonction de ses moyens et à la mesure des bienfaits que le Seigneur, votre Dieu, lui aura accordés.
Voilà, bonjour. Alors, effectivement, comme Daniel l'a dit, il y aura en novembre 3 prédications sur le thème de la Sainte Cène. Et puis, un peu en introduction, je voulais vous livrer quelques pensées sur le contexte juif et les racines juives de cette Sainte Cène que nous célébrons tous les dimanches, qui est un moment essentiel de nos cultes, mais qui, parfois, peut-être, avec l'habitude, peut perdre un petit peu son sens. Comme d'ailleurs un mot qu'on répète trop souvent, mais tout d'un coup on ne sait plus ce qu'il veut dire. Alors pourquoi est-ce que c'est important de revenir un petit peu à l'histoire ancienne et aux racines ? Moi je me souviens quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, l'âge de lycéen ou gymnasien, collégien, peu importe, je voyais pas trop l'intérêt de l'histoire. Ce qui m'intéressait, c'était ce qui était moderne, ce qui était scientifique, c'était l'avenir, puis j'avais un petit peu l'impression que l'histoire, c'était des vieilleries. Voilà, j'étais un peu comme ça. Et puis progressivement, au cours de la vie, on découvre que l'histoire est assez essentielle pour comprendre plein de choses. Déjà, c'est important pour notre histoire personnelle. On s'est constitué d'une histoire, de ce qu'on a vécu dans notre enfance avec nos parents, avec nos frères et sœurs. Et tout ça nous marque. Et pour se comprendre soi-même, il faut aussi, cette fois, revenir sur ce qu'on a vécu. Puis notre histoire d'Église, c'est pareil. Il y a plein de choses qui sont incompréhensibles dans, je ne sais pas, dans les différences entre les Églises qu'on a, si on ne sait pas d'où ça vient, tout ça. Puis dans notre histoire de peuple, on est des peuples qui, des fois qui s'entendent bien, des fois qui s'affrontent, mais on ne comprend rien à ça si on ne remonte pas à l'histoire des peuples. Et puis on peut revenir à notre histoire de toute l'humanité. Puis même dans les sciences, je m'aperçois de plus en plus, je me suis aperçu en tout cas ces derniers temps, que c'est l'histoire des sciences est aussi une clé pour comprendre plein de choses d'aujourd'hui. Même en mathématiques, ça paraît peut-être pas, mais c'est non seulement intéressant, mais important à un moment donné de découvrir comment les choses sont venues, et pas seulement comment on les fait aujourd'hui. Et je me dis que c'est un peu une lacune dans la formation que j'ai reçue, parce qu'on n'avait pas du tout cet aspect des choses quand j'ai fait mes études de maths. Et puis sur le plan personnel, la mémoire de ce qu'on a vécu, on peut penser au plaisir qu'on a dans les réunions de famille où on se raconte des choses, on se raconte des aventures drôles, des aventures tristes, des vacances qu'on a passées ensemble. Alors, vous pouvez essayer de dire, est-ce que je me souviens des... Où est-ce qu'on était en vacances il y a cette année-là, les 10 dernières années? Je ne sais pas si vous arrivez tous à vous souvenir de où vous étiez. Moi, parfois, je suis très frustré. Parce que j'ai mes souvenirs qui s'effacent un peu. Et puis en plus, j'ai plus la personne avec qui j'ai partagé des vacances pour lui redemander. Ah mais où est-ce qu'on était là? Ah mais ses amis, c'est cette année-là ou c'est quand on était au chalet à... Où est-ce qu'ils étaient déjà? Je ne sais pas si ça vous arrive comme ça de reparcourir vos souvenirs et d'avoir des trous puis d'être bien content de vous appuyer sur l'autre qui a une meilleure mémoire de certaines choses. Oui, ça compte, toute cette mémoire de ce qu'on a vécu nous constitue. Alors, si on revient maintenant à ces célébrations qu'on a chaque dimanche, à ce message du Christ, il n'est pas né sur un terrain vierge. Il est né à l'intérieur de la foi juive. Je crois que c'est important d'en être bien conscient. Jésus était un juif, les disciples étaient des juifs, les premiers apôtres étaient des juifs. Et dans la première génération, les chrétiens, les communautés chrétiennes, c'est des juifs qui, à l'intérieur du judaïsme, ont reçu une nouvelle compréhension de leurs écritures, qui est l'écriture des juifs, qui est l'Ancien Testament. J'ai lu un texte dans Bonne Nouvelle, septembre 2011. C'est intéressant parce qu'il y a un professeur d'une université de Tel Aviv qui a exploré des textes juifs anciens et puis qui découvre qu'il y avait des discussions entre les rabbins et les chrétiens, les premiers chrétiens, sur l'interprétation de l'Ancien Testament. Et à ce moment-là, ils n'étaient pas en opposition, ils discutaient simplement des rapprochements et des rencontres qui ne posaient aucun problème, dit-il, entre les sages du Talmud et les premiers chrétiens. Il leur était alors possible d'étudier ensemble, et même, les textes le disent, d'apprendre des interprétations bibliques énoncées au nom de Jésus. Donc on était dans cette première période où les chrétiens, ce n'était pas une autre religion, c'était une manière de comprendre la Bible, inspirée par Jésus, qu'on avait à l'intérieur du judaïsme. Et justement, ce professeur a étudié des textes anciens qui montrent que c'était bien comme ça. Il faut dire peut-être aussi que pour les Juifs, on avait l'habitude des interprétations multiples des Écritures. Nous, on a parfois notre habitude évangélique de penser que les textes ont un sens bien déterminé, puis de les lire un peu littéralement, mais ce n'était pas l'habitude des Juifs. Ils avaient l'habitude de discuter entre eux différentes interprétations et d'imaginer que les mots ont des sens multiples, que les textes ont une richesse de sens. Et on a des fois un peu perdu ça. Mais c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose en l'an 70, c'est que le temple, qui était le deuxième temple, a été détruit hein, suite à une révolte juive, les Romains ont tout bazardé. Et après ces événements, la société juive a commencé à se replier sur elle-même. Et puis par ailleurs, l'église chrétienne qui s'était ouverte à la présence de gens non-juifs, hein, qui avaient le même accès au message de l'évangile, ben, il s'est produit une rupture progressive et le christianisme est devenu une nouvelle religion. Mais c'est quand même intéressant de se souvenir que ça a pris du temps et qu'il y a au moins une génération entière où le christianisme était une manière juive de lire la Bible. Alors voilà pour le contexte juif. Et puis puisqu'on parle de la Sainte Cène, on est dans le contexte de quoi ? On est dans le contexte de la Pâque, une des principales fêtes juives. Le texte qui a été lu par Daniel tout à l'heure nous dit deux jours avant la Pâque, il y a les chefs juifs qui prennent la décision qu'ils vont arrêter Jésus. Et puis, juste après, le premier jour de la fête des pains sans levain, alors on va voir pourquoi c'est appelé comme ça, les disciples demandent à Jésus, où est-ce que tu veux qu'on prépare le repas de la Pâque? Alors, il faut dire, mais je ne vais pas entrer dans les détails, il y a un petit problème de calendrier, parce qu'effectivement, selon les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, qu'on appelle synoptiques parce qu'ils ont une certaine parenté littéraire, ce repas que Jésus va préparer, ce repas eucharistique, ce repas de la Sainte Cène, se situe le jeudi soir et puis c'est là la Pâque. Et puis d'après Jean, la Pâque serait plutôt vendredi soir. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas très bien comment interpréter cette apparente contradiction. Ben voilà, on va pas entrer dans les détails, mais c'est pas complètement évident de faire un calendrier précis. Mais ce qui est important, c'est de voir ce contexte de la Pâque et d'essayer de voir ce que ça signifie. Donc les disciples, ils s'adressent à Jésus comme à quelqu'un qui est le chef de famille, et puis c'est lui qui va célébrer la fête. On est dans un contexte où donc les fêtes se célèbrent à Jérusalem, donc il y a des pèlerinages, c'est les pèlerins vont tous ensemble. Et qu'est-ce que c'est que cette fête? On va le voir plus en détail après. C'est une actualisation de la libération fondamentale du peuple de l'Égypte. Et ça ravive leur espérance messianique. Alors, d'après le Deutéronome, et puis c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui, il y a trois fêtes principales chez les Juifs. Alors c'est intéressant parce que j'étais juste en Israël et Palestine il y a quelques jours, et puis on est tombé pendant une de ces trois fêtes, ce qui était celle qui n'était pas la Pâque, mais qui est la troisième. Alors ces trois fêtes principales, c'est des pèlerinages, donc où tous les gens allaient se rassembler à Jérusalem, d'après ce que nous raconte le Deutéronome. Alors dans le développement historique, c'est vraisemblablement... ça reflète la situation à partir du roi Josias, où il y a une grande réforme et où on a vraiment centralisé toutes les célébrations à Jérusalem. Alors, ces trois fêtes, il y avait la Pâque, qui se situe au printemps, qui était leur début d'année. Et puis, vous avez vu que dans le texte de l'Évangile, il y a la fête des pains sans levain, puis la Pâque. Alors, la Pâque, telle qu'elle est à ce moment-là, c'est un peu le jumelage de deux fêtes. Il y en a une où il y avait un sacrifice d'agneau. Voilà, c'est celle-là que les Israélites ont fêtée en Égypte au moment où s'est passée la libération et où il y a eu les premiers-nés des Égyptiens qui ont été décimés. Voilà. Donc, c'était une fête de bergers. Et dans un sens, c'est une fête de berger qui est devenue le souvenir de la libération d'Égypte. Puis la fête des pains sans levain, ben c'est une fête qui est liée au calendrier agricole. Et puis qui s'est aussi trouvée rattachée à la sortie d'Égypte avec le souvenir de cette précipitation avec laquelle les gens ont dû partir. Donc vous n'avez pas vraiment le temps de faire lever votre pain, donc vous mangez du pain sans levain. Et en souvenir de ça, voilà, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs célèbrent cette fête et mangent du pain sans levain. Et ils font très attention, hein, ils nettoient tout très soigneusement parce qu'il n'y a rien qui doit toucher quelque chose qui a touché du levain. Je trouve intéressant en soi de voir que des fêtes qui étaient des fêtes, en somme, de la nature, une fête agricole qui est basée sur quelque chose de cyclique, une fête des bergers qui sont des éleveurs, prend un sens historique, parce que c'est important le sens de l'histoire. Ça devient l'histoire de l'intervention de Dieu parmi les hommes. Donc c'est des fêtes un peu naturelles, mais qui ont pris un sens spirituel très profond, celle de l'intervention et de la présence de Dieu. Alors dans la suite du Deutéronome, on n'a pas lu, on ne va pas entrer dans les détails, mais 7 semaines plus tard, il y a une fête qui est appelée parfois fête des semaines, et qui est fête de la Pentecôte. Et c'est intéressant parce que c'est une fête qu'on a reprise dans le christianisme, et qui maintenant est associée à la venue de l'Esprit. Hein. Voilà. Alors, pour les Juifs, cette fête des semaines commémorait la promulgation de la loi, et du point de vue agricole, c'était les prémices des récoltes. J'ai oublié de lire, peut-être, pour la Pâque, c'était le début de l'année, mais c'était les premiers épis, du point de vue agricole. Puis la fête des semaines, donc, à la Pentecôte, c'est les prémices des récoltes. Bon, évidemment, c'est pas tout à fait notre calendrier agricole à nous, hein, on est en Palestine. Et puis enfin, là on arrive au début de l'automne, la fête, alors elle a différents noms, hein, suivant la fête des huttes, ou la fête des tabernacles, ou la fête des tentes, ou la fête des cabanes. Hein, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et les Juifs l'appellent Soukhot. Alors j'y étais justement, alors c'était assez intéressant, parce que vous êtes en pleine ville, dans une grande ville, et puis tous les gens, ils mangent tous sous des cabanes. Alors, tout le monde fait des cabanes, ils font sur leur balcon, ils font sur le trottoir, donc à ce moment-là, on a le droit de faire des cabanes sur les trottoirs, il y a 30 cm pour passer pour les piétons. Bon, je pense qu'en dehors de ce moment-là, on n'aurait pas le droit de faire des choses comme ça. La loi chez nous, c'est qu'on doit laisser 1,50 m pour les piétons, mais à Soukhot, à Jérusalem, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, là-bas, ils mangent. Alors, ils dorment pas là-dessous. Hein. Ils dorment quand même dans leurs appartements, mais ils vont toujours manger. Ils mangent pas dans leur appartement. Ils vont manger là. Puis même dans les restaurants, vous voyez qu'ils ont fabriqué une cabane à côté du restaurant, puis les gens vont manger dans leur cabane. Alors, c'est du cabane, c'est du provisoire. Il y a des espèces de paille ou je sais pas quoi dessus pour faire une couverture. Voilà. Alors ça, c'est la fête des huttes, qui rappelle leur vie dans le désert, où pendant 40 ans, ils ont vécu dans la précarité, sous tente, voilà. Et, alors ça, c'est les 3 fêtes. Donc si je reviens à la fête de la Pâque, qui est le contexte de la Pentecôte, il y a 2 sens, on a déjà évoqué, mais le mot Pâque signifie « Dieu passe par-dessus ». Ça évoque le fait que quand le jugement est venu sur les Égyptiens, Dieu a passé par-dessus, ou l'ange destructeur, d'après les textes, a passé par-dessus les maisons des Égyptiens pour les épargner. Des Israéliens, merci. Alors c'est une image pour le croyant de la grâce de Dieu, hein, qui nous épargne. Et puis, les pains sans levain, on a déjà fait allusion. Alors l'Ancien Testament mentionne les 2 fêtes hein, dans les textes historiques. Il mentionne par exemple les pains sans levain à Gilgal, là c'est quand ils sont arrivés en terre promise. Et puis la Pâque est célébrée en grande pompe par le roi Josias. Donc les spécialistes, les historiens pensent que ces 2 fêtes qui ont dû se fondre en une seule à partir de l'exil. Et puis aujourd'hui, c'est une fête qui est marquée. Enfin, le grand truc de la fête, c'est le repas du Seder. Alors, je sais pas, lesquels d'entre vous sont venus au repas du Seder qui ont été préparés par Bernard Félix. Et c'est voilà, c'est sympa de vivre. Pardon. Où? Ah oui, aussi. Oui, d'accord. Voilà. C'est vrai qu'il y a, il y a eu cette année. C'est vrai, il y a eu ici. Et puis moi, je suis allé une fois. C'était à la paroisse avec Bernard Félix, où voilà, les gens partagent. Alors il y a du pain, il y a des herbes amères, il y a du vin. Hein, il y a d'ailleurs dans le détail, il y a 5 coupes de vin. Alors je ne vais pas entrer dans le détail maintenant, mais c'est intéressant de voir que le pain et le vin que Jésus partage dans la Sainte Cène, ça tombe pas du ciel. Il n'a pas inventé un nouveau truc. Ça fait partie de ce repas que les Juifs prennent à la Pâque. Voilà. Alors, quand donc Jésus prend ce dernier repas, on a toute cette histoire qui est là derrière, qui est dans la tête des disciples, qui sont des Juifs, et ils comprennent ce qu'on a besoin de leur expliquer. C'est le souvenir d'une histoire, c'est le souvenir d'un événement de libération. Quel passage de l'esclavage à la liberté, passage de la mort à la vie. C'est vraiment l'événement fondateur quand la loi est énoncée par Dieu, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a délivré du pays d'Égypte ». Dans l'Ancien Testament, c'est non seulement l'identité du peuple d'Israël, mais c'est l'identité de Dieu qui est signifiée par ça. « Je suis celui qui t'est libéré ». Mais c'est une libération qui n'a pas été simple, hein, parce que je disais, c'est le passage de l'esclavage à la liberté. C'est 40 ans d'apprentissage, la liberté, dans lesquels, pendant assez souvent, en tout cas plusieurs reprises, ils en avaient marre, puis ils avaient envie de retourner en Égypte, où c'était, ils pensaient que c'était peut-être plus confortable quand même que la liberté. Puis quand ils sont arrivés au seuil de la terre promise, la majorité était plutôt découragée. Pensait que c'était impossible d'y arriver. Donc, c'est pas une liberté tout simple, c'est pas juste un petit truc magique qui fait que tout va bien. C'est une liberté qui s'apprend. Alors, il y a tout ça derrière, dans le souvenir de la Sainte Cène. C'est quelque chose qui est fait pour actualiser ce vécu. C'est pas seulement une histoire qu'on raconte. Juste pour revenir au passé, c'est une histoire qu'on raconte pour se souvenir que Dieu est présent et se dire qu'il est présent aujourd'hui. Et puis, dans une perspective messianique, c'est-à-dire la perspective du retour du Christ, pour nous, la perspective que de la délivrance finale. Alors, j'aimerais peut-être relire quand même Deutéronome 6, 10 à 12, juste pour voir cette importance du souvenir. Lorsque le Seigneur, votre Dieu, vous aura conduit dans le pays qu'il vous donne, comme il l'a promis à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, vous y trouverez de grandes et belles villes que vous n'avez pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de richesses que vous n'avez pas amassées, des vignes et des oliviers que vous n'aurez pas plantés. Vous aurez de quoi vous nourrir abondamment. Prenez bien garde alors de ne pas oublier le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. Voilà un avertissement, je pense, qui est aussi valable pour nous aujourd'hui. Et nous sommes appelés aujourd'hui à nous souvenir de la présence de Dieu. Quand tout va bien et quand tout va mal aussi. Ce Dieu qui nous a accompagnés tout au long de notre vie, qui nous a donné la force de traverser ou de sortir d'une épreuve, qui nous a ouvert telle porte pour un travail, pour des études, des rencontres, rencontrer quelqu'un, des rencontres importantes dans notre vie, sur toutes sortes de plans. Puis parfois, on réalise que Dieu était présent, même à des moments où on avait l'impression sur le moment qu'il n'était pas là du tout. Et se souvenir de ça, c'est pour pouvoir le vivre au présent, aujourd'hui, dans nos diverses situations, et pour apprendre à lui faire confiance pour l'avenir. Alors que ce souvenir de la présence de Dieu puisse nous aider à vivre aujourd'hui. Et j'aimerais simplement nous remettre dans la prière. Seigneur, c'est vrai que tu nous as accompagnés dans nos vies, qu'il y a des épreuves qu'on aurait peut-être jamais pu traverser sans cette présence. Tu es présent parmi nous aujourd'hui, permets à chacun de nous de reconnaître, découvrir, sentir ta présence. Donne-nous la force de vivre les situations où nous sommes et la confiance que tu nous accompagnes sur la route, aujourd'hui et demain encore. Amen.